Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Dans le cadre du festival Est-Ouest de cette année 2018, le Maroc étant le pays invité, nous allons parler de bon, je sais pas trop quoi, avec les invités ici autour de la table que vous n'hésiterez pas à utiliser comme une table ronde, hein, vous-même, à partager tout ce que vous savez les uns des autres et vos expériences. Alors, j'ai Dominique, je cherche votre nom de famille parce que j'ai un papier, mais bonjour Dominique.
Bonjour, Dominique Kobe.
Kobe, voilà. Merci à vous. Amine Hama.
Oui.
Bonjour.
Merci pour l'invitation, bonjour.
Ben, merci d'être venu. Et enfin, Rachid Khales.
Khales.
Voilà, j'ai bonjour. Appris que le K et le H se disaient R. Je suis bien content d'étaler ma culture. Donc, vous êtes ici dans le cadre du Festival Est-Ouest, le Maroc invité. J'aimerais que bah, vous vous présentiez un petit peu, juste histoire qu'on sache qui vous êtes. Et par vos mots, ce sera mieux que je lise plutôt mon document. Dominique.
Moi, je suis Dominique Kobe. Alors, j'étais prof universitaire à la fac. J'étais prof d'arabe maghrébin aux langues orientales à Paris. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur l'arabe, prof d'arabe maghrébin. Donc, c'est une spécialité assez rare. On est souvent prof d'arabe classique ou d'arabe standard. Mais moi, j'étais prof d'arabe maghrébin, donc marocain, algérien, tunisien. Et puis, de linguiste que je suis devenue plutôt sociolinguiste, c'est-à-dire la langue dans sa société. Et la langue comme on la parle et par les jeunes, etc. Mais aussi la langue comme on la chante et la nouvelle scène marocaine. Avec des genres qui sont apparus depuis une vingtaine d'années maintenant, le métal, le punk, le hip-hop, le rock, le slam plus récemment, etc. Voilà, donc c'est ça mon histoire vite fait.
Merci. Amine ?
Si je suis au festival Est-Ouest, c'est parce que j'ai coécrit un livre avec Dominique Kobe qui s'appelle Gilles Clam. C'est un livre qui parle un peu de l'histoire, mais aussi de l'actualité de la scène urbaine, ce qu'on appelle la nouvelle scène marocaine. On appelle nouvelle, même si elle a 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle existe. En musique, ouais, de musique urbaine. Donc je suis aussi musicien, enfin j'étais musicien de métal, je jouais dans plusieurs groupes. Donc je connais cette scène depuis ses débuts, on va dire depuis la moitié des années 90. Et par la suite, j'ai travaillé aussi en France, en Espagne, j'ai joué dans différents groupes, que ce soit dans le rock ou le métal ou ce qu'on appelle au Maroc la fusion. C'est une sorte de brassage ou de musique métissée, donc musique traditionnelle et musique moderne. Dans la musique moderne, donc, il y a toutes sortes de genres et d'influences, rap en passant par le reggae, le rock, etc. J'étais à un moment aussi blogueur parce que ça répondait à mon avis à une nécessité au fait de suivre un peu ce mouvement, d'écrire et puis de donner une sorte de coup de projecteur sur cette scène spécialement rock metal qui n'est pas trop médiatisée. Et puis voilà, entre autres, je suis acteur culturel, comme on dit. Je travaille dans une association en ce moment qui s'appelle Fondation IBA, à Rabat, qui gère une salle polyvalente, donc cinéma, musique, théâtre, danse. On organise beaucoup de formations, d'ateliers et on travaille surtout à la promotion des arts et toutes disciplines confondues. Voilà.
On ira un peu plus dans le détail de cette scène, de pourquoi hein, 20 ans est si peu diffusée, et puis des tours que ça vous a joué d'ailleurs. Enfin, Rachid Khales, vous êtes poète.
Alors moi, je suis d'abord enseignant à l'université Mohamed V de Rabat.
Ah oui.
Et en même temps, je suis écrivain, poète, romancier. Et je préside une association à Tanger, dans le nord du Maroc, qui s'appelle MedCulture. Et qui travaille à rapprocher, hein, surtout par un dialogue d'égal à égal, les deux cultures de la Méditerranée. Et ce qui aujourd'hui m'intéresse, ce qui intéresse aussi Dominique ou Amine, c'est effectivement la même chose. C'est la culture pour tous parce que on croit fondamentalement au Maroc qu'on ne peut réformer l'esprit des Marocains que par la culture. Voilà.
On croit, qui ça, vous trois?
Oui.
Mais on n'est pas les seuls, heureusement.
Tous ceux qui sont venus au Festival Est-Ouest, peut-être. Du coup, ça me permet tout de suite une question à mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le reste du Maroc serait aussi dans cette même idée?
Je crois qu'aujourd'hui, le travail qui se fait ici et là est un travail extrêmement important. D'abord, c'est le fait de la société civile. Hein. L'État, effectivement, via le ministère de tutelle, le ministère de la Culture, fait un travail, mais qui reste quand même peut-être improvisé, sans vision profonde. Alors, ce qui manque peut-être à ces associations, à ces personnes qui font un travail formidable partout au Maroc, c'est peut-être de se constituer en réseau pour devenir une force de proposition et une force tout court, hein, aujourd'hui, parce que la société marocaine est une société disparate, hein, il faut le dire. Avec cette force hein, que nous pouvons constituer, hein, il me semble que nous pouvons faire l'équilibre parce qu'aujourd'hui, le Maroc est partagé entre une modernité, des fois une modernité ostensible, peut-être factice des fois, et en même temps, un conservatisme extrêmement profond. Et il faut faire le travail entre les deux. Aujourd'hui, si moi, personnellement, j'ai un rêve, peut-être une exigence, ça serait qu'on fasse un peu l'équilibre dans cette société pour que l'on vive réellement dans la tolérance, dans l'acceptation de l'autre. Et cette diversité, elle est constitutive de ce qu'on appelle l'identité marocaine. On est à la fois arabe, amazir, on est juif, on est africain, etc. Et c'est ce qui nous permet peut-être d'être de plein pied, d'aller de plein pied vers l'autre dans ce que j'appelle quand même une rencontre heureuse. Parce que tout simplement, elle ne fixe pas trop les identités. On ne voudrait pas être figé sur ce que l'on est. Mais avoir quand même un rapport avec autrui, un rapport heureux, serein, qui, du côté de l'Occident, par exemple, cesse d'être hautain, et du côté de chez nous, par exemple, il cesse d'être dans une forme, j'allais dire, d'utopie qui ne peut pas exister, parce que du côté du monde arabe, de façon générale, on a l'impression qu'on peut islamiser l'univers. Du côté de l'Occident, on a l'impression qu'on peut tuer Dieu dans le cœur des hommes, alors que ce n'est pas ça l'essentiel, c'est l'humain, c'est ce qui nous rassemble tous.
Alors en France, on est loin de rassembler toutes nos forces associatives pour avoir un poids sur notre gouvernement. Ceci dit, je notais aussi quand même que le Maroc, peut-être sous votre regard, hein, Dominique, a moins cette perception, voilà, il était parlé d'islam ou d'islamisme radical, que d'autres pays l'ont. En France, en tout cas, le Maroc n'est pas présenté comme ça. Et puis, c'est surtout l'Eldorado pour plein de gens. Hein. On va passer ces 3-4 mois d'hiver là-bas. Est-ce que donc ce tourisme, tout ça, vient lui aussi perturber peut-être ce rassemblement des forces? Mais j'aimerais qu'on continue sur ce débat-là. C'est super intéressant.
Mais le Maroc, bon, il y a le Maroc des chameaux et des palmiers et des hivers chauds, effectivement. Mais il faut quand même voir que le Maroc a subi au moins une évolution, si on ne peut pas l'appeler révolution, mais une évolution vraiment d'ouverture sur les scènes urbaines. Et tout ça, ça date d'une dizaine d'années maintenant. Il y a eu des événements traumatiques en 2003, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu tout d'un coup, il y avait une scène underground, personne n'en parlait, personne ne la connaissait. Amine en parlera mieux que moi, mais je veux juste dire un mot ou deux avant. Tout d'un coup, il y a 14 jeunes qui ont été arrêtés et qui faisaient du métal et qui ont été accusés de satanisme. Et pour la première fois depuis 25 ans, le Maroc s'est réuni pour demander à ce qu'ils soient libérés. Il y a des gens de toute génération, de tous milieux sociaux, et ça c'était vraiment très, très, très nouveau, qui sont réunis pour essayer de les faire sortir de là. C'était une aberration, ce procès. À partir de là, il y a une médiatisation arrivée sur le devant de la scène, de cette scène urbaine qui était autrefois underground. Et cette médiatisation, grâce à des nouvelles radios qui ont commencé à apparaître à partir de 2006, cette médiatisation a fait que des gens qui, 3 ans auparavant, ne supportaient pas de voir des jeunes habillés avec des vêtements hip-hop, avec des pantalons qui tombaient sous les fesses, etc., ça s'est finalement médiatisé, devenu familier, etc. Donc il y a quand même eu par la médiatisation de ces mouvements, de ces cultures urbaines dont on parlait tout à l'heure, d'une certaine différence. Et ça, mine de rien, ça a fait son chemin, y compris dans les milieux les plus rétrogrades dont on parlait de mentalité. Donc il y a quand même eu un mouvement qu'on a comparé beaucoup trop rapidement à la movida espagnole, qu'on a appelé la Naïda. Et le livre qu'on a écrit avec Amine, Gilles Lclam, La génération des mots, les poètes urbains, ça permet de mettre sous forme d'un livre, par écrit, des textes de cette nouvelle scène. Et mettre par écrit des textes qui sont uniquement chantés, qu'on trouve uniquement sur YouTube, sur Internet, ou peut-être à la radio pour certains d'entre eux, surtout le rap et la fusion, le métal, le punk, tout ça, ça passe pas beaucoup en radio, même pas du tout. Mais ça lui donne une valorisation, un statut. Et donc ça, c'est un travail de sape qu'on fait contre les gens un peu ringards. Quoi,
ça permet même de passer la barrière musicale, hein, des fois, parce qu'on parlait de métal et de punk. Il y a des gens qui trouvent ça insupportable juste au premier accord. Amine, le conservatisme du Maroc, alors, vous a directement touché, d'une part. Vous faites partie de ces personnes qui ont été condamnées.
Ouais. Bah, écoutez, le conservatisme, on le vit toujours au Maroc. La société marocaine, c'est une société conservatrice. Ça,
est-ce qu'on peut décrire...
ça va pas, on peut pas le changer du jour au lendemain.
Qu'on peut décrire sur quoi c'est conservateur, selon vous ?
Conservateur parce qu'on tient à une certaine identité. Tout à l'heure, on a mis Rachidi parler de valeurs. Il y a certaines valeurs de tolérance, mais il y a certaines valeurs qui se perdent. Quand on parle d'identité marocaine, on maintient quand même un certain traditionnalisme. On tient à un certain traditionnalisme et le fait de changer, il dérange beaucoup de gens. Là, je fais un peu la différence entre la masse et puis toute cette nouvelle génération, parce que là, si on parle de musique urbaine, tout ça, c'est récent. Dans notre société, on parle des années 90 et ce mouvement, ces genres et sous-genres sont venus de l'Occident. Donc forcément, ça déplaisait à une certaine intelligentsia parce que ça poussait à la débauche, parce que ça ne correspond pas à...
C'est plus la tradition.
C'est bien sûr que c'est plus la tradition, mais maintenant, il y a certains groupes, certains artistes qui étaient... ce qu'on appelle aussi l'intelligence urbaine. Ils ont suivi peut-être un peu même la recette d'autres artistes, des artistes des années 70 qui ont marqué le paysage musical des années 70, c'est Nesl Riwen et Gigi Lala. C'est-à-dire ils ont joué un peu avec les ingrédients de musique traditionnelle, ils l'ont modernisé et ça a marché et ça a eu un impact au niveau de la masse. Maintenant on parle de musique légitime, reconnue par l'État. Quand on parle d'interventionnisme de l'État ou de nouvelles dynamiques associatives de subventions, etc., on peut remarquer que le ministère de la Culture maintenant soutient le rap. Ça date d'il y a 2-3 ans. Maintenant, il y a une nouvelle politique au fait qui soutient à la production, à la promotion, à la diffusion, etc. Donc voilà, je pense que la société civile et ses associations, ils gagnent, ne serait-ce que des petites marches comme ça, mais je pense que le changement, il ne peut pas se faire d'une façon violente, mais ça y va doucement. Là, le rap, il a accès aux médias. On voit les rappeurs qui étaient à la marge il y a 10 ans, peut-être même en 2003, c'était impensable de les voir, par exemple, faire la couverture ou être invités à des plateaux télé. Maintenant, ils font la couve et ils sont invités à des plateaux télé. Ils ont été décorés par le roi, que je salue, parce que c'est grâce à lui qu'on a beaucoup de changements quand même liés à cette acceptation, on va dire, de musique contemporaine qui vient de l'Occident, etc. Pas que dans la musique, je parle de toutes les esthétiques et toutes les disciplines. Le fait, par exemple, de décorer un artiste comme le Big, ça a un sens énorme et ça a un impact, bien sûr. Le fait que des artistes de cette nouvelle mouvance qu'on appelle musique urbaine soient invités dans des festivals prestigieux comme Mawazin, comme Gnawa, etc., ça a aussi un impact et c'est une sorte de reconnaissance. Voilà, maintenant, si on fait le bilan de ces 20 dernières années, je pense que tout est positif. Après, si on parle de rock au métal, là, c'est autre chose. Parce que c'est vrai qu'en 2003, c'est grâce à ce mouvement qu'il y a eu une sorte de réconciliation, voilà, entre la jeunesse et une certaine partie conservatrice de la société, parce qu'il y avait juste de l'incompréhension. Le métal, c'est une musique ésotérique. Il y a des codes, ça parle en anglais, des t-shirts noirs, des crânes, des pentagrammes, plein de codes. Forcément, c'est. Mais je pense même en France, même aux États-Unis, Bon Jovi, c'est un sataniste. Elvis Presley, à un moment aussi, il dansait, je sais pas, tout ça, ça venait du diable, c'est des codes du diable. Donc, c'était une erreur en 2003 que les 14, moi qui faisais partie aussi des 14, ça m'a permis aussi de m'ouvrir les yeux, découvrir énormément de choses, de suivre la politique, parce que je m'intéressais pas du tout. D'ailleurs, c'est toujours le cas, je m'intéresse pas, mais enfin, pas de la même façon. Oui, en 2003, c'était un choc. Ça a permis au rap, à la fusion et à la musique de jeunes, si je mets tout dans le même panier, voilà, musique de jeunes, d'être acceptée. Moi, je me rappelle, en 2003, il y avait des dames voilées qui allaient chez les disquaires. Bon, on n'a pas de disquaires, on n'a pas de Fnac Virgin, c'est des gens qui vendent c'est des piratés. Des dames voilées qui allaient chercher Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Bon, c'est des groupes assez dark, quand même, de black metal. Et juste pour découvrir, pour savoir ce que font ces jeunes marocains. Parce qu'ils étaient vraiment dans, même pas l'underground, mais quelque chose de plus bas que l'underground. Oui. Peut-être, voilà, c'était le moment qui a poussé peut-être les parents, une certaine partie de la société, de découvrir et de voir ce que fait cette jeunesse, ce que crée cette jeunesse. C'est une forme d'expression, c'est de l'art. C'est vrai qu'on a utilisé des mots assez scandalisants, assez c'était de la terreur, parce qu'on parle de satanisme dans la société marocaine 2003, c'est incroyable quand même. Et surtout quand on découvrait dans les médias arabophones, je souligne que c'était des médias arabophones qui disaient que c'est des jeunes qui buvaient le sang de chat, ce genre de choses. Bien sûr, c'était pour choquer.
Oui, c'est vrai.
Non, c'était pas vrai.
Non, c'est vrai que c'était dans la presse.
Non, mais parce que vous étiez allé jusqu'à respecter justement ces codes de métal-là, à chanter ce genre de texte aussi.
Non, c'était des covers principalement.
Ouais,
c'était vraiment le tout
des
début.
Reprises, voilà.
Ouais,
bon,
c'était des reprises. Mm-hmm. C'était le début de la scène. Il n'y avait pas, pas de vraie composition.
Voilà, c'est ça. On peut reconnaître quand même qu'il y a une scène métal, effectivement, ou même dans plein de mouvements différents, qui aiment bien ce genre de texte. Et que donc, voilà, si on les reprend, on peut être assimilé.
Mais c'est de l'art. C'est de l'art. Il y a du cinéma de genre, il y a les films d'horreur. On ne va pas dire que c'est.
Il y en a qui y croient à fond quand même.
Oui.
Bah, en France, on a cru à un moment avec le mouvement de Christine Boutin contre le Hellfest, tout ça. Ben, voilà, c'est ça. Et c'était en 2013, hein. Il n'y a pas si loin que ça.
C'est pour ça que j'ai commencé par dire que le parallèle avec la France, on n'était pas loin. Nous, on recule un peu, vous avancez, nous on recule. Le roi aujourd'hui, enfin, ou la société marocaine, reconnaissant cette scène-là, reconnaîtrait par là même la possibilité de voir émerger des nouveaux textes et donc un nouveau véhicule, parce que le véhicule traditionnel, voilà, finalement peut-être n'intéresse plus trop la jeunesse, on ne veut plus entendre la musique de la même manière, mais finalement le texte peut être, lui, chanté en arabe du Maroc, sur du métal, pourquoi pas, ou du rap, et le message passe quand même, et on reconnaît donc l'artiste en tant que... que texte, comme le poète par exemple. Enfin...
Oui, oui, il faut bien dire une chose, cette reconnaissance, elle n'est pas octroyée. Le fait justement de ces jeunes créateurs qui se sentent imposés par le travail. Et il est de tradition, hein, en politique marocaine, de comprendre ceci. Chaque fois qu'il y a un mouvement important qui s'impose lui-même, on essaie évidemment de l'envelopper, de le diriger dans un sens et pas dans un autre, etc. C'est ce qui arrive aussi bien en musique, hein, parce que c'est effectivement une scène nouvelle qu'on a appelée Naïda. C'est quelque chose qui émerge, qui s'élève, etc. Et c'est la même chose aussi lorsqu'il s'agit d'apprécier, par exemple, ou la poésie, ou le roman marocain, ou le théâtre, ou le cinéma marocain. Alors, le cinéma... continue d'être la cible de traditionnalistes, par exemple, qui souhaitent voir tel film censuré, etc. Il y a des livres qui sont interdits au Maroc, bien que officiellement la censure n'existe pas. L'un des derniers, les plus importants, ayant obtenu le prix de la Mamounia, c'est le plus grand prix du Maroc par la dotation, j'entends. C'est celui de Mohamed Ftah, un auteur magnifique décédé. Il a obtenu justement ce prix de la Mamounia en 2011, mais le livre était interdit le censeur intervenant par téléphone pour exiger des libraires qui avaient les rares exemplaires disponibles de ne pas le vendre. Alors, dans mon association Médiculture, on a acheté le livre, on a créé, monté un événement national relayé par la presse et nous avons imposé justement la vente de ce livre, la lecture. On a créé spécialement un blog et nous avons demandé aux lecteurs de choisir des passages que nous avions accrochés dans un fil à linge et les gens qui étaient présents dans la librairie de la Virgule, eh bien, choisissaient un texte et le lisaient à haute voix. Donc, on a eu la visite courtoise des représentants du Merzen, c'est-à-dire de l'État, et qui étaient là, qui avaient tout enregistré, etc. Ça veut dire que la censure est quelquefois, elle est en nous. Hein. Il y a de l'autocensure,
ouais, c'est ça,
certains libraires ayant cédé à ces menaces. Nous avons fait un événement national. Et donc, c'est une question de mentalité. Alors, cette jeunesse qui la caractérise certainement aujourd'hui, c'est cette audace. Mais ce n'est pas une audace gratuite. Non, c'est une audace réfléchie. Très longtemps, on n'a pas cru en cette jeunesse. Hein, j'entends les traditionnalistes qui continuent, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Mais le Maroc, il est beau justement par sa création, par ce qu'il peut proposer aujourd'hui. Hein. On sait très bien qu'au Maroc, personne ne conteste personne sur le plan politique aujourd'hui. Hein. Et donc, l'espace dans lequel tout est possible, c'est justement l'espace de la création, de la culture. Et s'il y a aujourd'hui une dynamique très forte partout au Maroc, dans les villages, les petites villes, dans le nord, le sud, etc., c'est justement parce qu'on y croit. Et moi, personnellement, hein, j'ai l'intime conviction que cette jeunesse peut modifier le visage du Maroc, l'imposer, parce que c'est une jeunesse qui a peut-être les pieds enracinés en terre marocaine, mais qui regarde le monde. Hein. L'Europe d'abord, parce que nous avons des frontières, on va dire, pratiquement communes, hein, à travers la Méditerranée, les États-Unis aussi, le Japon, la Corée qui fascine une certaine jeunesse marocaine. Et l'avènement de l'homme au Maroc sera l'avènement de l'homme universel, parce qu'il se reconnaît dans les valeurs humaines, humanistes.
On a évoqué tout à l'heure les mouvements metal, rock, punk. On a parlé d'autocensure et de contestation. Est-ce que cette jeunesse est dans la contestation? Est-ce qu'il est possible d'être dans la contestation? Est-ce que la culture telle qu'on la décrit vient donc chambouler ce traditionnalisme marocain et donc être dans la contestation? Et du coup, est-ce que c'est encore dangereux d'être dans ce mouvement-là
Dominique? Contestation... En tout cas, il y a une jeunesse qui va oser dénoncer des choses, dénoncer les maux de la société. Toutes les paroles de ces textes-là, on en a une trentaine dans le livre, vont dénoncer des maux que tout le monde subit tous les jours, la corruption, la misère, le chômage pour les jeunes, etc. Enfin, bon, ça permet en tout cas de construire une espèce de conscience citoyenne. Ça, c'est très important. Depuis ces 15 ans, sont nés au Maroc des jeunes citoyens. Ils ne restent plus uniquement des sujets. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui va permettre de se prendre en charge. Et là, on retrouve un peu... bon, la philosophie punk, hein, le DIY, do it yourself, c'est-à-dire t'as envie de faire quelque chose, la philosophie de ce mouvement-là, c'est vas-y, fais-le, prends-toi en charge, réunis quatre copains, loue une salle, vas-y, enfin bon, voilà, il y a ça. Après, là où ça va s'arrêter, c'est qu'on va pas dénoncer les causes. Moi, je pense que c'est là les limites, parce que là, ça va trop loin, sans doute, ça doit franchir ce qu'on appelle au Maroc des lignes rouges. Mais en tout
donc,
cas, dénoncer...
autocensure, là, pour ça.
Je ne sais même pas si c'est autocensure ou si c'est là que ça s'arrête. Enfin, là, je ne pourrais pas... Je peux pas dire là-dessus, vraiment.
Et il y a beaucoup d'autocensure, quand même.
Oui.
Je pense que si on parle de ces 20 dernières années, il y a un phénomène très, très, très important qui a permis à cette jeunesse, pas seulement à la jeunesse, mais à la culture, d'évoluer, de se développer. En tout cas dans les pays du Sud, de façon générale, c'est grâce à Internet. On a eu d'abord la parabole, mais c'est vrai qu'Internet a ouvert énormément de portes à cette jeunesse. Parce que si on parle de censure, il y a des structures, il y a des, comment dire, des, Oui, des plateformes. Par exemple, l'équivalent de la SACEM au Maroc, qui est le Bureau marocain des droits d'auteur, il n'a pas été créé dans une optique de gérer, de collecter les fonds et puis de les réduire, mais surtout pour censurer. Un artiste qui doit sortir un CD, il doit avoir ce visa de censure qui existe toujours. D'ailleurs, pour importer, par exemple, un livre, on doit avoir le visa de censure au Maroc. Donc, avec Internet, n'importe quelle personne pouvait créer son propre blog, écrire peut-être ce qu'il veut en anonyme. D'ailleurs, il y a toujours des groupes qui, par exemple, dans le black metal, qui est un genre assez persécuté, on peut persécuter des groupes de black metal, en tout cas dans les pays arabo-musulmans, parce que on va dire, les plus extrêmes, c'est un genre assez radical. Et il y a des groupes à Agadir et puis dans d'autres régions qui sont signés chez des labels européens, mais personne ne sait si c'est des artistes marocains ou pas. Ils préfèrent garder l'anonymat parce que l'histoire se répète et qu'on a toujours peur. Donc il y a cette peur-là qui est toujours là, qui est existante. Après, concernant l'autocensure, en musique, une certaine génération qui a maintenant, qui on va dire, une certaine notoriété dans le paysage médiatique, etc., n'écrit plus de la même façon. Maintenant, ils ont pénétré dans les foyers, ils parlent aux ménages, ils n'ont plus la même fanbase qu'il y a 20 ans. Leur fan d'il y a 20 ans, maintenant, c'est un père de famille, il va écouter peut-être son album avec ses enfants dans sa voiture, etc. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par contre, il y a un phénomène assez récent, et je pense que c'est un phénomène global, je veux dire à l'échelle internationale, qu'on n'a pas traité dans notre livre. On a parlé de rap, on a parlé d'un seul groupe qui fait la nouvelle forme de rap qui est la trap, mais ce sont de nouveaux codes. Alors eux, il y a zéro censure, ils mâchent pas du tout leurs mots, c'est pas du tout la musique que j'écouterais avec mes parents ou quoi que ce soit. On n'en parle pas beaucoup, ni dans les médias, ni dans d'autres sphères intellectuelles ou autres. Si on parle de radicalisation en ce moment, je pense que c'est même primordial de se pencher pour étudier au moins les textes et ce nouveau mouvement de trap marocain qui est très lié au phénomène des ultras de football. Enfin, l'État, il a interdit, il a carrément fermé le stade de Casablanca l'année dernière. Et la plupart de ces ultras, ils vont pas pour voir le foot. C'est pour foutre le bordel. Et je pense que ce mouvement de trap qui vit bien, d'ailleurs, je sais pas comment ils font, mais il y a toute une macroéconomie, toute une industrie qu'ils ont développée liée à YouTube, aux AdSense. Le gars, il upload par exemple sa vidéo, il fait péter les 3 millions, 4 millions en un mois. Ça, c'est des sources de revenus assez importantes. Donc voilà, il y a toute une industrie qui est développée et puis qui est méconnue. Autre chose, dans le bouquin, on parle beaucoup d'une plateforme. C'est le Festival Boulevard. C'est le premier festival, le plus gros festival, on va dire, de musique alternative en Afrique, ou un des plus gros. Je ne connais pas ce qui se passe en Afrique du Sud, qui est un pays très développé. Mais je pense que le Boulevard, il a fait énormément de choses à toute cette scène. Ils ont l'habitude d'inviter des rappeurs engagés. C'est du rap conscient. C'est du rock ou du métal assez travaillé avec un message. En fait, il y a vraiment un esprit. Ce festival, ils ne sont pas du tout dans l'entertainment. Ce n'est pas du tout le spectacle. Mais c'est vraiment un fédérateur d'énergie, d'associations, de groupes qui travaillent. Surtout. Et cette année, ils ont, alors, une erreur ou pas d'inviter un des rappeurs actuels, mais on a vu tous les ultras débarquer au stade quand il y avait un rappeur, enfin, je sais pas qui a proposé ce nom, mais il y avait énormément de gens, pas du tout le public de ce festival. Donc voilà, tout ça, c'est nouveau. Donc peut-être qu'il s'agit peut-être de faire un autre livre, Dominique, sur le trap. Et autre chose super importante par rapport au travail qu'on avait fait, parce que moi, j'ai saisi la chance au fait de me joindre au travail de Dominique, qui a fait un travail remarquable pendant les 10 dernières années sur cette scène, tout simplement parce que c'est le premier ouvrage qui parle de la musique urbaine marocaine. Je pense que c'est un début, j'espère, et on aimerait bien qu'il y ait d'autres expériences comme ça, qui en tout cas travaillent de mémoire, qui laisseront une trace de ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé en tout cas ces 20 dernières années sur le rock, le métal et le rap.
C'est sûr en tout cas que les historiens marocains vont devoir, eux au moins, s'intéresser à ça, parce que là on parle de quelque chose qui a 20 ans, c'est frais, faut pas rater, faut y aller maintenant pour pouvoir en reparler plus tard. Pour finir peut-être sur cette censure, Rachid en premier, vous travaillez donc à l'université Mohamed V, vous êtes totalement libre de dire tout ce que vous voulez ici, l'êtes-vous au Maroc? Allez-vous avoir des problèmes à dénoncer ici dans un bouquin, là, juste par vos paroles, ce qui se passe là-bas, qui effectivement n'est pas un secret peut-être pour personne. Oui, vous êtes dans une royauté. Oui, l'islam a un poids assez fort dans un certain nombre de pays. Et donc, ce radicalisme hein, qu'on peut nous comparer avec nos fachos, hein, on est tout autant radicalisé quand ça va pas bien. Donc, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment libre, tranquille, serein? Vous allez rentrer tranquille?
Moi, je me sens libre et en réalité, je le suis, hein. Vous savez, quand quelqu'un qui... Moi, je suis écrivain, d'accord, et je suis en même temps éditeur hein, dans Virgule Édition. Je publie des livres, qu'ils soient les miens ou ceux des autres, par conviction hein, de leur qualité, mais aussi de leur liberté. Parce que la richesse d'un écrivain et d'un citoyen aussi, c'est sa voix. Il n'a pas d'autre richesse que celle-là. Je peux tenir le discours qui correspond à ce que je pense sans prendre en considération ses conséquences. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai, si on continue à condamner certains journalistes pour un article ou pour diffamation, ou etc., si on peut peut-être interdire des livres hein, comme ceux de Serhan qui sont interdits, hein, les derniers, que nous publions dans Virgule Édition, très bientôt, autour de la question de la sexualité dans le monde arabe, c'est que nous croyons que tu ne vis pas ta vie et ton destin de citoyen, on a longtemps été sujet de Sa Majesté, pour parler de façon franche, si tu ne te sens pas et que tu pratiques ta citoyenneté, eh bien, qui va la vivre à ta place ? Donc, on n'attend absolument rien aujourd'hui. On veut être dans la dignité, dans le respect des uns des autres. Que vous apparteniez à une famille riche ou pauvre, que vous apparteniez à votre propre pays ou que vous êtes étranger, pour moi, c'est la même chose. Il y a quelques 2 ans ou 3 ans, j'avais rédigé un article justement sur... après les attentats de Charlie Hebdo, et j'avais appelé à ce que j'ai nommé tout à l'heure les identités transitoires, parce que le danger pour moi, à ce moment-là, avec la montée de l'islamisme, c'était de fixer justement une identité, c'est-à-dire de la figer, alors que nous avons toujours vécu jusqu'à aujourd'hui avec une identité multiple et toujours en mouvement, toujours à construire. Et j'appelais dans cet article, surtout, hein, parce que nous sommes très liés à la France en particulier. Il me semblait que la France, l'Occident de façon générale, nous regardait de haut des fois. Il y a quand même une incompréhension, on va dire, parce que la France qui pense, la France qui dirige, est un peu paresseuse, à mon sens. Et du côté du monde arabe aussi, on ne facilitait pas les choses, parce qu'il y a crispation sur son identité, sur ses valeurs, etc., qu'on veut imposer. Alors, comme s'il était possible aujourd'hui de créer un royaume virginal qui existe depuis 15 siècles, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre les langues, d'aller tendre la main à tous les êtres de ce monde, de travailler ensemble, de parler d'égal à égal. Et c'est comme ça que je me sens marocain. Je suis un être qui est ouvert à tout, au monde, et c'est la raison pour laquelle je suis fondamentalement marocain. Le Marocain d'aujourd'hui et de demain, il sera comme ça. C'est peut-être une utopie, mais bon, on est utopiste autour de la table.
Sujet ou citoyen, Amine ?
C'est au royaume du Maroc. Sujet, citoyen. Non, mais concernant la question de la censure, c'est difficile de ne pas s'auto-censurer, en tout cas pour les artistes. Même s'il y a Internet... L'année dernière, il y a un rappeur qui s'appelle Mr. Crazy qui a été emprisonné, même s'il travaille uniquement sur Internet et que l'État ne peut pas contrôler. Mais je pense qu'il y a certaines limites. Je pense qu'il a été arrêté parce qu'il a détourné au fait l'hymne national ou truc du genre. Je veux dire que voilà, ces jeunes-là, ils sont surveillés. Dépasser les lignes rouges, on les connaît tous. En tant que Marocain, on sait ce que sont les lignes rouges. Et si on, jamais on fait cette erreur, on sait très bien à quoi cela veut mener. Je veux dire, les problèmes ou l'exclusion, etc. Et l'artiste ne souhaiterait pas avoir des problèmes, surtout s'il a des visions, des objectifs par rapport à sa carrière et tout.
Oui, mais cette provocation.
D'où la subtilité. Non, je veux juste parler de quelque chose de très important dans le livre, parce qu'on parle beaucoup de mani, d'allégorie, ou de. C'est pas les sous-entendus.
Sous-entendus.
Depuis les années 70, il y a eu beaucoup de messages au deuxième, troisième, quatrième degré. Et cette génération excelle maintenant à faire passer des messages comme ça. Je pense que c'est ça la qualité d'un artiste. C'est quand il travaille comme ça avec des mots, c'est de savoir faire passer des messages sans être trop direct ou violent. Parce que dans notre société, il y a quand même un taux d'analphabétisme qui est assez élevé. Et si, par exemple, notre musique, notre livre, notre poème s'adresse à une certaine partie qui va nous comprendre, peut-être que d'autres vont mal interpréter. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce contrôle. Moi, je pense qu'il y a différentes vitesses dans notre société. Moi, en tout cas, en tant que musicien, je ne suis pas écrivain, mais j'ai toujours été avec des écrivains. Dans le livre, il y a deux gars, d'ailleurs un, et je voulais d'ailleurs le préciser, Khalid Haoussa, qui devait être là avec nous, a dit. Là, je passe à un autre problème. Donc, de la censure à la mobilité, c'est une problématique que connaissent tous les artistes du Sud. Pour aller justement en Occident.
Avoir un visa.
Donc Khalid qui devait être avec nous, je pense, peut-être autour de ces tables, demain, dans les tables, autour de ces tables rondes. Il a l'habitude de voyager. On a fait pas mal de concerts en Europe, au Brésil, un peu partout. Et là, il n'est pas avec nous, juste parce qu'on lui a refusé le visa avec un argument bidon, genre les documents ne sont pas fiables, un truc du genre. Bon, bref. Pourquoi je parle de Khalid ou d'autres artistes avec lesquels j'ai travaillé, c'est parce que moi, je ne suis jamais intervenu au fait dans leur façon d'écrire. Je leur fais confiance. Et ils font partie de cette école, on va dire, Rewenia, de Nesle Rewen, des années 70, qui sait manier au fait les mots et qui passe tout type de messages. On peut être irrévérencieux envers qui que ce soit, mais avec subtilité. C'est ça l'importance au fait des mots. Voilà, je voulais absolument parler de cette question de mobilité. Je pense qu'on devrait aussi en parler peut-être dans les tables rondes. Mmh. Dominique ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Dominique, qui peut faire des allers-retours sans problème entre la France et le Maroc.
Oui, jusqu'à présent, ça va, merci.
une comparaison entre cette jeunesse marocaine, la nôtre, nos mouvements musicaux, votre perception de l'état de la France et de l'état du Maroc. Moi, je plaisantais ou pas tout à l'heure en disant qu'on régressait et qu'eux progressent.
En tout cas, moi, j'ai été séduite par ce mouvement là, dont on parle, la fameuse Naïda. Je l'ai vécu de l'intérieur et on en a même fait un film qui est sur YouTube, on pourrait aller le regarder, qui s'appelle Casa Naïda, c'est-à-dire ça bouge à Casa. On l'a fait dans l'urgence, comme ça, sans réfléchir. Et a posteriori, on s'aperçoit que ce film, qui date de 2007, donc il a exactement 10 ans, que ce film, il n'y en a pas eu tellement d'autres sur ce mouvement. Et donc, ça permet de voir un état d'esprit. C'était les débuts, c'était un enthousiasme, c'était pour moi, qui travaillait depuis très longtemps sur le Maroc. J'ai trouvé un souffle nouveau qui m'a complètement séduite. J'étais emballée, j'étais même prise dans ce mouvement moi-même. Enfin, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en France. Mais si on peut comparer, on peut comparer à ce qui se passait en France au début des années 80, avec l'arrivée des radios libres, entre guillemets, on sait ce qu'elles sont devenues depuis, avec des groupes incroyables. Parlons de Carte de séjour. Ça, c'est du rock français, chanté en algérien, et du rock français, 100% français, mais avec des langues. Il y avait aussi Manu Chao à ses débuts, du rock français, chanté en espagnol, etc. Enfin, donc, la diversité des langues avec... voilà, ça me fait penser à posteriori à ce qui se passait à ce moment-là, et qui a très vite été stoppé avec la marche pour l'égalité des beurs et tout ça, récupérer SOS Racisme, tout ça... Mais 81, 83, c'est plutôt à ça que je pense pour ce qui s'est passé au Maroc en 2006-2007. Depuis, il y a eu récupération largement de ce dont on parlait, c'est-à-dire des rappeurs qui, au lieu de continuer à dénoncer, comme on le disait, vont se mettre pour être soi-disant programmés dans tel ou tel festival, à nous bassiner sur la marocanité du Sahara, des choses comme ça. Enfin bon,
qu'est-ce qu'on en a ? Pire que la censure, il y a la récupération.
Il y a pire que ça, c'est l'inverse de la censure. C'est le brossage a priori, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon, il y a ça, ça existe. Il y a des beaux clips avec la marche verte qui date des début des années 70. Bon voilà, c'est aberrant, quoi. Il y a ça, mais il y a encore de la créativité. Il y a un mouvement punk qui revit. qui revit au Maroc, alors que enfin en France aussi, mais
si c'est en train de revenir aussi,
voilà,
en France,
voilà. Mais au Maroc, ils ont été pionniers parce qu'ils ont commencé à revivre vers 2004-2005, on va dire, ouais. Si, par rapport à ça. Donc il y a ce mouvement là qui est là, qui est très très marginal, mais c'est là, quoi. C'est ça qui est passionnant pour moi.
Par rapport à cette question de récupération, en 2006, on en parle beaucoup, de récupération, de cooptation, mais est-ce que cette scène, penses-tu que cette nouvelle scène de trap va être réorientée ou récupérée, vu qu'il n'y a pas moyen de la censurer?
J'ai pas entendu le trap dont tu parles.
Alors, affaire à suivre.
Ouais, à suivre, voilà.
Voilà, dans ces mouvements qui peuvent être récupérés, la poésie, est-ce que c'est récupéré
Non, absolument pas. Non. La poésie marocaine a toujours été rebelle. Elle est restée fidèle à ce qu'elle est et elle continue. Je crois même qu'aujourd'hui, ces voix rares, hein, de poétique très rares, parce qu'on a connu au Maroc le mouvement Souffle autour de Abdeltef Labi, mais 30 ans après, on n'a pas eu de véritable voix poétique forte. Et là, il y a quelques... à des exceptions près, bien sûr. Alors, il y a eu des émergences de voix nouvelles et c'est une aventure qui est intéressante parce que les causes qui l'ont vu naître ne sont pas les mêmes. Hein. Il n'y a pas de conflit avec le pouvoir, il n'y a pas nécessairement ce travail d'acculturation, construction d'une culture nationale comme c'était le cas avec le groupe Souffle, etc. C'est une génération née après l'indépendance pour la plupart, issue de l'école publique, et qu'elle se décline en slam, en darija marocain, en amazigh ou en français, comme c'est le cas de certains. Elle reste assez authentique, on va dire, et elle apporte une nouvelle vision à l'écriture et au monde.
C'est quoi les grands thèmes de la poésie marocaine, puisqu'elle a,
alors,
a été décrite comme
elle,
ça
elle suit certainement peut-être la courbe qu'a connue le roman. Le roman marocain est un roman aujourd'hui décomplexé complètement, puisqu'il aborde toutes les thématiques, l'identité sexuelle, la lutte contre, je ne sais pas, le pouvoir, etc. Mais elle tend de plus en plus vers l'affirmation du jeu. Et je dirais même du jeu, puisque après ces relations controversées, conflictuelles avec l'autre, cette littérature a voulu l'affirmation de l'identité, hein, c'est-à-dire l'individu qu'on ne voyait pas dans la collectivité, dans le groupe. Maintenant, c'est l'émergence de l'individu. Là, c'est beaucoup plus profond, c'est peut-être le jeu intime, avec des dérives qu'on peut comprendre, évidemment, c'est-à-dire un certain nombrilisme, ça, on peut l'imaginer facilement. Mais la poésie reste quand même authentique, parce que c'est l'expression du jeu par excellence, qu'elle soit mentale, c'est-à-dire dans la relation de soi à soi, ou dans la relation avec autrui ou le monde, elle reste une affirmation de ce qu'est l'être profond. Voilà.
Dominique.
Oui, mais justement, la poésie, enfin, le sous-titre de notre livre, c'est Poètes urbains. Donc, il y a de la poésie sur de la musique, et il y a aussi ce genre qui est vraiment de la poésie, qui est le slam, qui est récent au Maroc, qui vraiment montre. Enfin, on en a deux exemples dans le livre, parce que c'était des artistes assez récemment arrivés sur la scène, mais il y a toute une jeunesse qui va maintenant s'exprimer non plus par le hip-hop, mais par le slam directement, c'est-à-dire de la poésie avec un fond musical ou quelque chose comme ça, et avec des textes très très forts, vraiment. Et donc, qui sont diffusés sur YouTube, essentiellement, sur Internet, quoi. Voilà.
Ouais, il y a même des événements organisés un peu partout au Maroc, dédiés au slam. Il y a un tel engouement au Maroc, en tout cas en ce moment. Je ne sais pas si c'est question de moyens, parce que au fait, le slam, c'est justement, il faut pas qu'il y ait d'instru au background,
le moins possible,
ouais, c'est ouais. Ça. Par exemple, à la Fondation Hiba, là où je travaille, on a un événement qui s'appelle le Jeudi Slam. En fait, c'est le dernier jeudi de chaque mois. C'est une scène ouverte. Toute personne qui a écrit des textes et qui veut se produire devant le public, bah, fait ça. On organise aussi des sessions, des ateliers d'écriture avec des slameurs. Comme dit Dominique, on a des pionniers comme Mustapha Slammer qui est dans le livre, qui a un parcours assez éclectique. Il a fait du raga, reggae,
hip-hop.
Ouais, il vient du hip-hop à la base. Et il a sorti un des premiers albums de slam dans le monde arabe, qui était financé par AFARC, Arab Fund Culture Association.
Le fonds arabe,
pour la culture. Voilà. Donc il a sorti un des premiers albums slam. Par contre, il y a de la musique, il y a des fonds de piano, tout ça. C'est joli. Un peu à la Grand Corps Malade.
Mmh.
Un peu ce genre-là.
C'est son idole, d'ailleurs.
C'est son idole. Et il y a Khalid Houssa, Khalid Mokhtar, qui n'a pas pu être avec nous donc, au festival Est-Ouest, qui donne aussi beaucoup, beaucoup d'ateliers d'écriture dans ce sens, dans différents cas. Il est bilingue, parfaitement bilingue. Donc, c'est des ateliers en arabe, que ce soit en arabe classique ou en derija ou en français. Et puis, Koman aussi, qui est dans le livre, un autre rappeur, qui a aussi un parcours très différent parce qu'il travaille sur différents supports en Derija. Donc voilà, il y a ces trois éléments très, très actifs dans la scène urbaine qui travaillent avec les Derija, avec l'arabe
marocain.
Et concernant le slam, je parlais aussi de AFARC, AFARC qui est une association qui soutient. C'est des plateformes de financement qu'on commence à voir, ça foisonne un peu partout dans le monde arabe, en tout cas dans la région sud-méditerranéenne, depuis ces, on va dire, 5-6 dernières années. Je parlais tout à l'heure des appels à financement du ministère de la Culture marocain qui ont été lancés il y a 3-4 ans, je crois. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que ça devient, mais ça a été arrêté cette année parce qu'il y a un nouveau ministre. C'est souvent comme ça, donc ça dépend voilà, des politiques culturelles. Tout dépend en fait du dirigeant de cette institution. On va voir ce qu'il va faire ce nouveau ministre. Mais je parlais surtout de ces plateformes de soutien et d'accompagnement d'artistes. On en a besoin parce que c'est vrai qu'il y a de la création, il y a de la créativité, des artistes qui demandent qu'à être soutenus, d'avoir des studios peut-être pour enregistrer, des salles pour ou un peu plus de diffusion, de promotion, etc. Donc il y a ces plateformes, mais moi qui travaille beaucoup avec ces artistes, je pense qu'ils ont encore besoin d'outils, de techniques pour pouvoir monter des dossiers, savoir écrire et postuler à ces fonds d'aide. Il y en a, que ce soit à l'échelle nationale, c'est des fonds de mobilité, comme je disais, des fonds qui aident à la promotion, à la diffusion ou d'enregistrement, et des fonds de l'Union européenne. C'est une sorte de substitut un peu au travail du ministère de la Culture, parce qu'on attend toujours cette intervention étatique qui est très timide. Comme je disais, il y a un encouragement royal par rapport à cette nouvelle synergie des jeunes, etc. Mais on a besoin d'encore plus de consolidation, on va dire. On a besoin de formation dans le côté technique, managérial, etc. L'artiste, il fait ce qu'il peut. Voilà, il crée. Mais tout ce qui est autour, c'est ça ce qui nous manque. Et je pense que c'est question de temps. Voilà. Former des formateurs, peut-être, pour aider ces artistes. On est beaucoup dans l'auto. Auto-tout, on s'auto-manage, on fait de l'auto-promotion. Maintenant, avec Facebook, c'est vrai qu'on l'utilise un peu n'importe comment. Il y a des techniques, il y a du digital marketing. Donc tout ça, voilà, c'est des techniques et c'est des outils qui manquent peut-être à ces artistes, peut-être pour se faire connaître chez eux d'abord et après à l'international.
Ce sera avec ceci que nous terminerons cet entretien, hein, parce que là, on a été bien dense, bien long. Rachid Khalès, peut-être citer votre livre, là, parce que lui, on ne l'a pas cité, ou vos livres.
Alors, là, j'ai un recueil de poésie, hein, le dernier publié, dans le désir de durée suivi de Vol d'éclat, publié par la Maison de la Poésie au Maroc, et mon dernier roman publié Absolute Hub. Absolute en référence à Absolute Vodka. Hub,
oui,
signifiant amour dans la langue arabe.
Voilà. Donc de l'amour et de la vodka au Maroc.
Oui,
très
je
bien.
Confirme.
Et juste, on recite aussi votre livre et ses références.
Alors, il s'appelle Gilles Klein, poète urbain, donc Dominique Kobe à Minhama. Et il est publié au Maroc par Senso, Nico et Sirocco, mais il est diffusé en France.
Vous restez jusqu'à la fin du festival ?
Voilà, jusqu'à
oui.
lundi.
Et ça s'est bien passé ?
Très bien. J'ai été accueilli par l'espace et par les gens. Je suis très content.
Magnifique, ouais, super.
C'est extraordinaire dans ce cadre. Oui.
Et ben, merci pour votre présence encore à cette antenne. Festival Est-Ouest, le Maroc invité. Bonne suite à vous trois.
Merci.
Voilà.
Merci.
Interview.
Ok, le bel. L'interview du jour.